L'actualité de la semaine vue du web, c'est avec nos amis du site The Conversation. Bonjour Aline Richard.
Bonjour.
L'information est parue dans Nature cette semaine, mais chez vous, chez The Conversation, vous l'aviez repéré depuis longtemps. Aux États-Unis, des chercheurs sont parvenus à modifier les gènes défectueux d'un embryon. C'est une première scientifique, elle n'est pas anodine et elle soulève aussi beaucoup de questions. Alors on va commencer peut-être par le bon côté de la nouvelle, Aline.
Oui, parce que cette technologie dont on va parler, vous et moi, dans un instant, sert à une chose pour le moment, à soigner, donc à réparer le génome d'un être vivant en devenir, hein, puisqu'il s'agit d'un embryon. Et donc on a prouvé, si vous voulez, comme disent les scientifiques, une preuve du concept, on a prouvé qu'on pouvait intervenir sur les génomes pour, par exemple, corriger un gène d'une maladie grave.
Une maladie grave, une maladie orpheline par exemple.
Oui, par exemple, tout ce qui est maladie directement génétique, si vous voulez.
Et on l'a fait comment ? Comment on a réalisé cette première scientifique ?
Alors, on l'a fait grâce à une technologie, alors je pèse mes mots, qui est vraiment une révolution. Hein. Pour le coup, c'est pas galvaudé de le dire. Alors, cette technologie, elle a un nom absolument imprononçable, mais je vais quand même m'y essayer. Ça s'appelle CRISPR-Cas9. Je vous épargnerai ce que ça veut dire précisément, parce que ça veut dire quelque chose. Et cette technologie, il faut voir ça comme un espèce de paire de ciseaux, moléculaires. Imaginez que vous devez travailler sur des molécules et vous avez une paire de ciseaux qui vous permet de les couper, de les recoller, de les trafiquer un petit peu pour les changer. Tout ce qu'on pourrait faire avec une paire de ciseaux, une feuille de papier pour arranger une jolie chose. Voilà. Donc c'est ça cette technologie CRISPR-Cas9. C'est une technologie qui permet d'intervenir directement dans le génome. C'est extrêmement puissant.
Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire.
Voilà, on va venir au mauvais côté des choses, si on peut dire, avec cet extrait de Bienvenue à Gattaca, le film d'Andrew Niccol, avec l'idée donc de l'homme augmenté. Aline Richard, cette découverte, on l'a dit, soulève beaucoup d'interrogations sur la notion d'eugénisme, par exemple, car si on peut modifier un gène défectueux, on peut aussi améliorer un gène.
Ben évidemment, c'est la technologie n'est jamais quelque chose de mauvaise ou de bonne. Hein. À The Conversation, on fait passer ce message. Si vous voulez, c'est des outils. Hein. Un couteau, ça peut servir à couper une pomme ou à vous poignarder. Donc là, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est une technologie qui, en effet, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, permet d'intervenir directement sur le génome des êtres vivants. Et il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre parce que vous intervenez donc sur l'ensemble des cellules. On est d'accord. Si jamais cet embryon venait à naître. Toutes ces cellules seront changées, y compris ce qu'on appelle en termes techniques les cellules germinales, c'est-à-dire nos bonnes vieilles cellules sexuelles, on a appris ça à l'école. Donc là, vous jouez sur quoi ? Vous jouez sur la descendance. Donc là, c'est quand même complètement autre chose. Donc on peut s'imaginer effectivement eugénisme ou même changement de l'être humain, décidé par certains et pas d'autres. Il faut se rendre compte d'une espèce de gouffre devant lequel on est. Il me semble qu'il faut éviter à la fois les fantasmes et à la fois se rendre compte quand même du pas.
Du pas franchi. Alors lui n'est pas un homme augmenté, mais c'est quand même un sacré joueur de foot.
C'est le transfert du siècle et c'est aussi la fin du feuilleton de l'été peut-être.
Des sommes qui font tourner la tête.
Neymar, la star du ballon rond, a fait ses adieux à Barcelone hier.
222 millions d'euros.
Neymar au PSG, un transfert record de 222 millions d'euros, le prix de sa clause délibératoire.
Pour le petit génie de 25 ans, icône publicitaire, idole planétaire.
222 millions d'euros.
Du jamais vu.
Le très cher transfert de Neymar du Barça au PSG cette semaine, le site The Conversation a mené son enquête sur l'évolution du statut des joueurs, ou plutôt des sportifs en général. Alors on part de loin, Aline Richard, et on va aussi très haut forcément.
C'est très intéressant de voir comment le statut du joueur a évolué. On parle des Jeux Olympiques en ce moment. Est-ce que vous saviez que dans l'Antiquité, finalement, les Athéniens, en fait, ils versaient globalement 500 drachmes, c'est-à-dire 5 ans de salaire ou 5 ans de vie à leurs athlètes pour qu'ils puissent vivre de ça et être performants. C'est les premiers joueurs professionnels de l'histoire. Et puis après les Grecs, en fait, le sport est devenu vraiment une activité des amateurs et qui se sont opposés au cours de l'histoire à plus plusieurs reprises à la professionnalisation. Donc il y a vraiment dans l'histoire du sport des moments où il y a eu des sportifs qui ont pu imposer leurs objectifs et puis d'autres moments où finalement c'était plutôt la société et puis c'était pas bien vu finalement de faire du fric avec le sport. Donc voilà, ça évolue.